La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
Ça va mieux comme ça, Steph? Maintenant qu'on siffle.
Toujours pas sifflé.
Ah, moi non plus, c'est...
Eh ben, va falloir faire un petit entraînement. Vous êtes dans la dernière partie de cette midinale...
spéciale, bordel.
Post-moderne. on va envoyer un petit son. C'est un appel à soutien de Bure après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs.
Tiens, encore.
Encore une fois. Le procès des militantes contre la poubelle nucléaire est annoncé. On a besoin qu'un max de personnes viennent pour montrer qu'on ne se laisse pas faire, car le procès, c'est notre procès à toutes, à la lutte antinucléaire et à toutes les associations de malfaiteurs et malfaitrices. Ils nous ont envoyé un petit son de 3 minutes. On envoie, c'est un appel à soutien pour le procès à Bure.
Tous et toutes à Bar-le-Duc le 1, 2 et 3 juin contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation de nos luttes.
Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs,
des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie,
un dossier de 15 000 pages,
des mètres cubes de matériel saisi,
un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme,
l'heure de la mascarade judiciaire a sonné.
Les 1er, 2 et 3 juin au tribunal de Bar-le-Duc, se tiendra le procès des 7 malfaiteurs de la lutte à Bure.
Des amis luttant contre le projet de méga-poubelle atomique Cigéo ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler pendant de longues années.
Cette procédure a constitué une peine et a tenté de paralyser tout un mouvement de résistance.
Ce qu'on muselle chez ces personnes, c'est leur engagement antinucléaire, leur conviction et leur liberté d'expression.
Nous sommes toutes des
malfaiteurs. Toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Il n'y a toujours aucun déchet nucléaire à Bure. Pour autant, nous sommes à un moment charnière, car Cigéo pourrait bientôt être reconnu d'utilité publique.
Expropriation, défrichement du bois Le Jus et premier chantier pourraient voir le jour d'ici 2022. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce procès des malfaiteurs sera surtout le procès de Cigéo et du nucléaire.
Il est temps de dénoncer l'association de malfaiteurs comme outil de criminalisation de nos luttes. Cet outil juridique, issu des lois dites scélérates et de l'antiterrorisme, est utilisé pour tenter de paralyser toutes les formes d'auto-organisation, partout en France et ailleurs.
Contre des gilets jaunes, des personnes des quartiers populaires, des antifascistes, des écologistes.
Leur justice en carton-pâte ne nous fait pas peur. Les 1er, 2 et 3 juin, réunissons-nous à Bar-le-Duc devant le tribunal. Soyons nombreux et nombreuses à affirmer notre opposition au nucléaire, à soutenir nos amis, à célébrer toutes nos luttes et à dénoncer cette instruction.
C'est le moment d'enterrer Cigéo.
Rendez-vous les 1, 2, 3 juin à partir de 9h à Bar-le-Duc devant le tribunal et mardi 1er juin à 14h pour un cortège festif.
Possibilité d'hébergement sur Bure et alentour. Plus d'infos sur la mobilisation sur burburbur.info
et sur noussommestousdesmalfaiteurs.noblog.org.
Voilà, donc merci beaucoup aux malfaiteurs et malfaitrices de Bure pour l'envoi de ce son et du coup on soutient, on rappellera un peu avant le procès qu'il faut y aller, donc c'est 1, 2 et 3 juin. Lionel ?
Ouais, c'est moi. Ouais.
T'es prêt ?
Ouais, grave.
Tu voulais nous parler du 1er mai ?
Ouais, on va À Brest, on va dire qu'on va passer vite. Il y a eu pas mal de spectacles, d'intermittents, notamment des fumigènes sur le pont de recouvrance. Donc voilà, ça a marqué un peu le coup. Des spectacles de gens en bleu de travail, tout ça, de chorégraphie. Voilà, diverses prises de parole. On va plutôt évoquer sur ce qui s'est passé au National, avec à Paris. Moi, je m'intéressais particulièrement... Bon, déjà, on va rappeler qu'il y a eu quand même pas mal de charges de flics assez violentes, voilà. Et on va focaliser un peu sur ce qui s'est passé, sur l'agression d'un camion de la CGT et puis de militants CGT par, paraît-il, des gens plutôt autonomes, enfin, en gros, du Black Bloc, quoi, habillés en noir, hein, dans le cortège parisien. Donc voilà, il y a plusieurs versions. Alors dans les médias mainstream, tout d'un coup ils ont eu une solidarité envers la CGT, tout ça, en disant, et notamment aussi beaucoup d'hommes politiques, tous plus insipides les uns que les autres, et pour dire c'est inacceptable, tout ça, voilà, et tout. Et donc, comme par hasard, bizarrement, en fait, tout d'un coup, de grands médias, que j'appelle de propagande, soutiennent la CGT. Pour, en gros, un peu diviser, et, avec toujours ce truc des bons et des mauvais manifestants. Alors, d'après Rouen dans la rue, ils mettent en édito que les gens qui ont attaqué la CGT... Ça serait suite à plusieurs dénonciations de personnes au keuf, disent-ils. Donc voilà. Après, ils écrivent « À Paris, le service d'ordre de la CGT en rit libre après avoir empêché les gens de manifester de manière radicale. Le SO de la CGT, c'est ça. De points, matraque, gazeuse, casque, gants coupés, violence contre manifestants. Une similarité avec la BAC, point d'interrogation. » Et donc, il y a une vidéo... Et en fait, le avant, donc le contexte qui amène à cette agression des militants de la CGT, bon, évidemment, c'est jamais... c'est mal, c'est pas bien, c'est cool, c'est pas bien. Bon, voilà, il n'est jamais évoqué dans les grands médias, donc on n'a jamais ce contexte-là. Il faut savoir qu'à Nantes, d'après Nantes Révolté aussi, un militant de la CGT en fait a craché puis sur une femme autonome et tapé dessus, je crois, voilà. Donc il y a eu un peu partout comme ça il y a eu à plusieurs endroits des tensions en fait entre mouvement autonome et une CGT accusée en fait de collaboration finalement avec le pouvoir d'État et du capital. Et donc de ne pas être assez radical et finalement de s'accaparer le 1er mai, de cadenasser la manif et de imposer une stratégie quant au mode d'action. Donc voilà. Après, il y a aussi la réponse de Révolution Permanente qui peut être intéressante à lire pour un autre point de vue. Mais on peut se demander quand même, vu les exemples multiples qu'il y a, même à Brest, ouais. Si à un moment, en fait, certains militants de la CGT qui se disent combatifs et révolutionnaires ne devraient pas publiquement se désolidariser de certaines pratiques de leur hiérarchie. Parce qu'on entend souvent dans des AG dire « oui, nous, on change les choses de l'intérieur », donc des militants de base, hein, tout ça. Ils sont sympas, ils font des choses et tout ça, machin, mais jamais publiquement, en fait, ne sont dénoncées les basses manœuvres bureaucratiques du syndicat à tous les échelons, y compris de leur service d'ordre, d'ailleurs. Mais il faut reconnaître aussi, par exemple, à Révolution Permanente, ils y reconnaissent, eux. Donc Révolution Permanente, c'est un site, mais c'est aussi une fraction du NPA, et quand même assez syndiqué et tout ça, pour certains. Donc il y a Anaskazi, syndiqué à Sudrail, je crois, et tout, qui reconnaissent quand même des dérives du service d'ordre de la CGT, voilà, tout ça, quoi. Mais bon, eux disent évidemment, en aucun cas, il faut arriver à ce genre d'extrême, en fait, d'aller attaquer, évidemment, voilà, des fourgonnettes de la CGT, quoi.
Oui, parce qu'en plus, ceux qui ont été attaqués n'étaient pas forcément les auteurs des méfaits auparavant, quoi. Ça, on ne sait pas, quoi.
Je ne sais pas. Il y a des photos où on te montre l'intérieur du camion avec des matraques, machin, tout ça.
Ah, ouais.
Il y a des photos où on te montre la gueule des mecs du service d'ordre de la CGT. C'est vrai que ça fait un peu peur. Voilà, après, c'est en cours, hein. Les versions, les témoignages, il y a pas mal de choses contradictoires. Faut pas prendre tout pour argent comptant. Mais bon, voilà, moi, la version de Rouen dans la rue m'intéressait parce qu'au début, j'y avais jamais le contexte, quoi.
Ouais, c'est
partout
petit.
C'était. Donc voilà, j'aimerais bien en savoir plus d'ailleurs.
Ouais, après, de toute façon, on va pas conclure là-dessus, hein, mais c'est. Si on doit conclure sur un truc, c'est lisez plutôt Nantes révoltée et Rouen dans la rue que allumer votre télé, quoi. Vous aurez au moins une version un peu plus claire des choses.
Et je vais lire vite fait, c'est court, un communiqué de la page Facebook Femmes Gilets Jaunes, dont le titre est « Appel à témoignage concernant les violences sexistes de certains membres du SO de la CGT ». SO pour service d'ordre. Des femmes ont été hospitalisées suite à des violences de certains membres du SO de la CGT lors de manifestations. Face au déferlement de haine habituel envers les Gilets jaunes, pardon, nous reprécisons que notre groupe a toujours soutenu les syndicats qui sont au quotidien auprès des salariés et font un immense travail militant. Par contre, nous ne pouvons absolument pas soutenir des agresseurs. Nous avons déjà plusieurs fois tenté d'alerter sur des problèmes de comportement à l'égard de camarades femmes, souvent précaires, vulnérables, parfois handicapés. Des insultes récurrentes, des violences physiques, des attouchements de fesses, de seins dont nous recevons de nombreux témoignages depuis plus de 2 ans. Il s'agit toujours de femmes et de femmes fragiles qui n'ont pas la structure de la CGT pour se défendre. L'escalade de la violence dessert la convergence nécessaire au mouvement social. Nous voulons que les violences cessent et nous lançons un appel à nos sœurs de la CGT pour que le dialogue se fasse dans le respect réciproque et pour que ces comportements inacceptables de membres du SO cessent. Et nous appelons évidemment toutes les femmes qui ont subi ces maltraitances à ne pas se taire et à témoigner. Les femmes doivent pouvoir venir manifester dans l'espace public sans être insultées et agressées. Nous ne nous tairons pas. Donc voilà, c'est un appel à témoignage. Moi, c'est une page Facebook que je trouve intéressante de femmes gilets jaunes qui sont dans un féminisme assez matérialiste. Bon, moi qui m'intéresse particulièrement. Voilà, et sinon, sur ce premier, je vous conseille aussi les vidéos de Adrien Adkaz de QG. Il y a aussi une vidéo de Blast, de Serge Faubert, je crois, qui est sur le terrain et qui montre tout ça. Et puis ça permet de voir différents angles, en fait, de cette scène, notamment, où il y a l'attaque du camion CGT. Oh, le titre, l'attaque du camion CGT. Ça fait frémir dans les chaumières. Et donc au cri de CGT, collabo, etc. quoi. Et... je pense que la CGT peut aussi quand même se poser des questions. Voilà. Surtout quand le mouvement social va se durcir et que la question se posera d'aller encore négocier ou pas voilà, avec le gouvernement.
Merci beaucoup. Et alors, tout à fait dans le désordre, nous allons donc attaquer l'agenda. Agenda comme d'habitude, on est lundi. Alors le lundi, à 17h30, c'est la réunion...
Alors, du collectif autonome des précaires de Brest, donc de 17h30 à 18h, il y a un temps d'accueil pour des nouveaux, tout ça. Vous pouvez venir parler de tout ce qui ne va pas, notamment, je ne sais pas, avec la CAF.
Votre proprio,
des choses comme ça. Et de 18h à 19h, c'est un peu plus formel et sur la réunion du collectif même, quoi, donc avec les militants habituels et puis les personnes qui font vivre ce collectif au quotidien.
Tu peux rappeler où c'est la
réunion ?
Pardon,
c'est à l'avenir...
Place Guérin.
Place Guérin.
À Brest.
Le mardi, le lendemain, de 16h à 18h, Place Guérin, il y a, comme d'habitude, de la récup de nourriture ici, issue d'un magasin bio. J'ai du mal aujourd'hui. Le 5 mai, il y a un hommage à Bobby Sands à Plougastel d'Aoulas au square Bobby Sands. C'est organisé par, ça va pas plaire à Dubois, mais Jeunes Insoumis, Brest et Brest Insoumise.
Il n'y avait qu'à être là.
Et voilà, et c'est un militant irlandais, ouais. Tout ça, vous pouvez aller voir sur leur page Facebook pour en savoir plus. Le 7 mai, donc ça c'est quand ? C'est vendredi. Toujours un assemblement, la récup de plats préparés en restauration collective. Vous pouvez passer, ils sont là tous les vendredis, sans faute. C'est de 15h à 18h, place Guérin.
Venez avec vos gamelles.
Ouais, c'est de la récup de cuisine collective et voilà. Donc tous les vendredis, hors période scolaire. Il y a une permanence juridique du collectif anti-répression. Le 7 mai, donc le vendredi toujours, de 18h à 19h, au 9 rue du Docteur Roux, à Brest. Donc ça, c'est le côté... salle écoumène,
c'est ça.
Au 4 Moulins, donc, hein, tram, arrêt Arena, sinon en bus 1 et 4, arrêt Cosmao Preto. Donc c'est tous les premiers vendredis du mois. Ouais, on est précis à Radio Piquet,
nous arrive aussi.
Voilà, ça peut arriver. Après, y a, voilà, l'ordi, il est... Voilà. Donc il y a une permanence juridique également, donc à un autre lieu, à Brest, 24 rue Sully Prudhomme.
C'est l'ancienne école Le Vau.
Ouais, l'ancienne école Le Vau à Désépion.
C'est ça, dans les locaux de l'association Désépion.
Ah, ok, ouais. Donc c'est entre la place Kéruskin et la place Sancerre. Donc voilà, c'est un autre lieu pour l'anti-rep. La distribution alimentaire, le 8 mai, qui est un samedi ?
Un samedi. Ouais, enfin, vache. Après le vendredi 7, le samedi 8.
Ouais. Mais non, mais c'est une mémoire d'à peu près 15 secondes de mémoire vive. Voilà.
Et encore.
Donc, il y a un dépôt de nourriture, en fait, de récup alimentaire à 14h dans la boîte
à bouffe.
À la boîte à bouffe, place Guérin. Et le lendemain, le dimanche, quoi, il y a ça aussi à 14h.
Et 17h.
Et 17h. Et on va aussi parler de tout ce qui concerne les rendez-vous Piquet, s'il y en a, et à venir.
Alors, moi, je vais commencer par une info. Le samedi 8 mai, place Guérin à Brest à 14h, un carnaval est organisé par le comité de soutien à l'avenir. Le thème de ce carnaval, ce sera le futur. Et pour venir donner un coup de main, notamment à la construction d'un char, ça se passe à l'avenir, mardi 4, donc demain, à 14h. Donc si vous voulez construire un char, c'est à partir de demain, 14h à l'avenir. Si vous voulez vous déguiser et fêter le carnaval, c'est samedi 8 mai à 14h, place Guérin.
Avec des beaux déguisements masqués.
Bah ouais.
Ouais.
Voilà, et après, pour les rendez-vous Piquet, alors, qu'est-ce qu'on a ?
Qu'est-ce qu'on a ? Bah, normalement, on commence, il me semble, mercredi matin, peut-être, c'est avec ça. La rediff de cette midinale.
C'est sûr, même.
De 8h à 10h. Jeudi après-midi, je sais qu'il y a un nouvel événement dans la grille à partir de 13h, il me semble.
Et cette semaine, et tu fais bien de me le rappeler. et cette semaine, pour tout le mois de mai, tous les jeudis à 13h, on écoutera de la création sonore, du documentaire issu d'une super revue sonore en accès libre sur Internet qui s'appelle Le Grain des Choses. C'est vachement beau. Et ce sera prêt, jeudi à 13h.
J'ai oublié, parce qu'on est passé vite du mercredi à jeudi, on a reçu un podcast de notre ami Michel Farry, donc il y aura du reggae sur Piquet vendredi soir à partir de 20h. Voilà, donc ça c'est mercredi, pour le jeudi on est ok. On passe au vendredi, où il me semble que cette semaine on va rediffuser Lilith Martin et les autres, ouais. À 18h, donc l'émission de Radio Canute, féministe. Et l'Estanco reprendra ses habitudes du samedi, enfin actuelles, pour l'instant on reste sur le samedi, et ce sera donc de 11h à 13h avec notre ami David Foinon et Marron. Ouais. Qui viendront nous reparler plus en détail de leur BD Gueule d'Or, le tout en musique française et pas que, du blues, du jazz et d'autres surprises de Patoche et son équipe.
Donc le samedi à 11h pour l'apéro. Enfin, ou pour le café, pour ceux qui, comme moi, ont un autre rythme.
Voilà. Et après, vous pouvez aller donc au carnaval à 14h.
Tout à fait, t'es bien, t'es juste bien.
Et il manquait peut-être, je vois sur leur flyer, l'assemblée d'usage de l'avenir, le 9 mai à 14h, donc le lendemain.
Donc, qui sera un
dimanche.
Qu'il est doué.
Et t'as oublié, parce que quand le carnaval sera fini et qu'à 19h, il faudra rentrer chez soi, vous rebranchez sur Piquet et vous pourrez écouter la superbe émission rock de Rock à la Casbah.
Bah ouais.
Voilà, de Casbah Records.
Et on va finir ce numéro de duettiste en parlant de la rediff de L'Envolée, l'émission anticarcérale de Fréquence Paris Pluriel. On rediffuse L'Envolée tous les dimanches de 11h à midi. On est bien ? Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que vous croyez qu'on a fini en avance, et en fait, pas du tout. Comme prévu, on va diffuser... l'interview que Lionel et Nico ont réalisé hier à la Fonderie de Bretagne. J'ai oublié Eric qui intervient. Eric de la CGT.
Eric de la CGT, j'espère ne pas me tromper mais de mémoire.
Eh bien, si ce n'est pas ça, il corrigera de lui-même.
Il va m'en vouloir, mais voilà.
Cette interview dure 25 minutes. On se dit au revoir avant.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Et à la semaine prochaine.
On fait comme ça.
C'est super.
À la semaine prochaine.
Je lance le son.
Et bonne semaine à vous.
Bonne semaine, salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi ta boîte et après dire pourquoi vous êtes en grève ?
D'accord, donc moi c'est Eric Blanchier. En fait, ça fait 29 ans que je travaille à la Fonderie de Bretagne. C'était SBFM avant, Société de Bretagne de Fonderie Mécanique. Et ça fait 22 ans que je suis élu CGT. Donc en fait... Nous sommes une fonderie, une filiale du groupe Renault. Donc on fabrique des pièces fontes, en fait, surtout les pièces qui sortent, qui sont autour de la boîte de vitesse, les pièces châssis. On a fait des collecteurs d'échappement, on n'en fait plus maintenant pour le moteur diesel. Mais on fait des. Donc on travaille maintenant à 95% pour Renault et un tout petit peu pour BMW. Donc c'est des pièces fontes. Donc en fait, ce qui nous arrive, en fait, on fait partie d'un réseau de fonderies, en fait, où on fait que de la fonte. Et après, par rapport à la transition écologique, en fait, ils nous disent que les véhicules électriques vont être beaucoup plus légers, peut-être, et qu'ils vont mettre beaucoup plus de pièces en aluminium. Donc, baisse des volumes fontes. Mais nous, on n'y croit pas à ça, parce qu'en fait, il y aura toujours besoin des pièces fontes. C'est-à-dire que des bras de suspension, par exemple, ils peuvent toujours y aller pour les faire en aluminium, ça doit exister, mais ou en mécano soudé. Mais la fonte est beaucoup plus solide que l'aluminium, donc c'est les pièces. La fonte, c'est pour les pièces de sécurité. Donc en fait, il y aura toujours besoin de pièces en fonte. Et donc en fait, ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire le groupe Renault faire le ménage dans les fonderies en France, même fermeture, parce qu'en fait, il y a plusieurs fonderies en France qui sont malheureusement en redressement judiciaire. Et donc pour nous, ils vont beaucoup trop vite par rapport à la transition écologique, parce qu'en fait, des véhicules électriques, déjà, au niveau écologie, c'est pas terrible du tout, que ce soit pour les batteries et le recyclage. Et moi, je veux bien une voiture électrique, mais bon, si je dois faire l'Orient Strasbourg et à Rennes, je suis obligé de brancher ma bagnole 12 heures.
Surtout le réseau aussi, le réseau électrique, il n'est pas adapté pour justement pour les voitures électriques. Oui, si tout le monde se met, en tout cas, si la moitié du parc se met en voiture électrique, ça va être compliqué de pouvoir produire l'électricité pour des véhicules. On va dire, c'est plutôt pour un peu des voitures, les bus, des trucs comme ça.
Ça peut être bien pour les communautés d'agglo, par exemple, qui veulent mettre en place un réseau de voitures électriques pour éviter trop désengranger le centre-ville. Pourquoi pas. Après, moi, j'ai des amis qui roulent énormément, qui font le diesel. Et il faut qu'ils... C'est une grosse connerie de vouloir quasi supprimer le diesel, parce que les voitures diesel, t'en auras toujours besoin, en fait. Et les mecs font de la route, quoi. Donc tout ça pour en venir sur la fonderie. Donc pour eux, en fait, Renault a pris la décision de faire le ménage dans leur fonderie.
Le plan d'annonce a été quand par le groupe Renault sur supprimer la fonderie. Quand est-ce qu'ils ont annoncé ça, quoi, officiellement, sachant que sûrement ils devaient y penser depuis longtemps, quoi.
En fait, on a eu il y a déjà un an maintenant. Un an, il y avait M. Sénard, en fait, du groupe Renault, avait lancé un pavé dans la mare. Il avait dit que la France de Bretagne n'avait pas vocation à rester dans le Groupe Renault.
Qui ça, t'as dit ?
Monsieur Sénard.
C'est qui ?
C'est un grand dirigeant du Groupe Renault.
D'accord.
Et en fin de compte, on a déjà fait une semaine de lutte, on a déjà fait une semaine de grève l'année dernière, à la suite de cette annonce-là. Mais en fait, ils ont. Ils avaient, en fait, il y a une fuite. Et en fait, ils ont démarré trop tôt, en fait. Ils ont annoncé trop tôt, ça. Donc après, ils n'avaient pas préparé leur... ils n'avaient rien préparé, quoi. Okay. Donc après, il y a eu une expertise, en fait. Une expertise qui a duré 9 mois. Et il y a une revue stratégique qui a été mise en place, plus une expertise et des cabinets d'expertise, que nous, en tant qu'élus CSE, avons mis en place. Dans tout ça, en fait, on arrive à l'heure où on se parle. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la loi. Une entreprise qui va mal, ou qui veut fermer, ou qui veut licencier. Donc en tant qu'élu CSE,
oui.
tu as quand même des moyens de te battre.
Vérifier donc, déjà aussi.
Vérifier c'est les informations qu'ils donnent, vérifier les comptes, tout vérifier, quoi. Les volumes. Et donc tout ça est arrivé au jour d'aujourd'hui. En fait, tout ça s'est terminé. Et officiellement, en fait, on est reconvoqué, nous, le 10 mai.
Qu'est-ce qu'il en ressort de, justement de l'expertise comptable ?
Donc il y a eu deux expertises de fait.
Ouais.
Nous, on a bossé avec CKFI Alpha en fait en tant qu'élu CGT, qui dit qu'en fait cette fonderie-là, il faut 30 000 tonnes pour être viable au niveau des volumes. Et là, on est à 19 000 tonnes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des volumes. En fait, des volumes fontes existent. Maintenant, on parle Europe, hein, parce que c'est vrai que la fonte, ça va diminuer. En fait, des volumes fontes existent. Et il y a de quoi, en fait, rien que dans l'automobile, alimenter les fonderies, il y a de quoi. En fait, Renault a délocalisé Portugal, Espagne et Turquie. Mais on n'a rien contre ces gens-là.
C'est la stratégie
ouais. Renault. Et donc, en fait, nous, en fait, pour être viable, il faut 30 000 tonnes.
Portugal,
Espagne et Turquie. Okay. En fait, Renault est vachement implanté en Turquie. Hein. Énormément implanté. Pourtant, c'est un pays politiquement compliqué.
Oui.
Et très, très compliqué. Et en fait, ils ont une grosse usine en Turquie, en fait, où ils arrosent au niveau de leur production les pays de l'Est.
D'accord.
Au niveau géographique, c'est bien aimé. Du coup, comme les mecs sont payés 300 euros par mois, sinon moins, et des conditions de travail de merde, enfin, tout. Et ils ont pas le droit de parler, enfin, ils font que bosser. 7 jours sur 7, la fonderie en Turquie. Mais la différence entre la Turquie et nous, c'est pour ça que je parlais d'écologie. En fait, les pièces qu'on fait, nous, elles vont au Mans ou à Cléon. Et elles sont usinées et montées dans ces chaînes-là, ces chaînes de montage. Et là, ils sont capables d'envoyer les pièces fondre, les faire fondre et fabriquer en Turquie et les ramener à Cléon et au Mans. C'est, au niveau écologie, c'est du délire. Et tout ça parce que les mecs sont payés 300 euros et nous 1500 en moyenne à partir quand t'as 25 grandes boîtes ici c'est 1500 euros en tant qu'ouvrier. Et donc on imagine les pièces qui vont en Turquie, qui sont en Turquie, qui reviennent à Clion, mais alors
toujours rentable,
c'est encore rentable, c'est terrible. Hein, donc il y a au moins 10 000 tonnes à l'instant où on se parle, il y a au moins 10 000 tonnes qui sont parties en Espagne, Portugal et Turquie.
Donc, ils pourraient bien alimenter ici la fonderie largement, mais c'est une stratégie de la boîte, une politique de la boîte d'envoyer ça ailleurs.
Bah, on est à 19 000 tonnes, à l'instant où on se parle, on est à 19 000 tonnes. Et à 30 000, à 350 salariés, on a l'équilibre. Je ne parle pas de faire de bénéfices, parce que je ne supporte pas les entreprises qui font des bénéfices, mais au moins être à l'équilibre. Et donc, c'est une stratégie. C'est pour ça que le gouvernement, ils font rire. Ouais, il faut relocaliser, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire, en fait. Et heureusement que bah, nous, on dénonce tout ça, quoi. Il y a l'outil de travail NF. Il n'y a aucune raison, en fait, de fabriquer les pièces ailleurs. Aucune raison.
C'est le patronat qui a le pouvoir. Donc, c'est pas les politiques. Les politiques sont bien.
Oui, parce qu'on a fait une visio, nous. Ce qui nous a fait démarrer, en fait, c'est qu'on a fait une visioconférence, en fait, qui a été organisée à la demande de la CGT. Donc, il y a une intersyndicale. Ah, c'était à RIA. On était 53 participants.
Ça, c'était quand ?
Nous sommes dimanche, c'était lundi. Lundi matin, Maël et moi, on était invités à la visio. Et il y avait 53 participants. Donc il y avait 5 membres du gouvernement, il y avait Bruno Le Maire qui était là, et plus quelques ministres qui sont venus distribuer les millions. Martinez, secrétaire général. 3 fonderies, mais elle était invitée en tant que DS, déléguée syndicale. et il y avait les autres représentants syndicaux, les autres syndicats. Et en fait, c'était hyper. Donc, on était invités pendant 2 heures. Donc, il y avait des inscriptions et tout. Et donc, les autres syndicats ont fait, ils ont fait que dire merci. Merci de l'invitation. C'était super. Te retrouver en visio avec le maire. Oui, bon. Donc, Martinez, il a parlé 5 minutes, mais il a parlé en premier. Donc, en fait, il n'a pas pu rebondir sur les conneries qu'ont dit les autres.
Ah bah.
Pas mal. C'est la communication, ils sont énormes. Et donc, après, Maël était prévu de parler en dernier, lui. Les 3 fonderies en difficulté.
Maël, c'est un camarade de.
Ouais, Maël de
l'usine.
Ouais.
Et les délégués. Qui est délégué syndical d'ici, quoi.
La fonderie.
D'accord.
Donc, c'est lui qui nous représente en tant que DS. Mm. Et encore, Martinez avait lourdement insisté pour que Maël soit invité, parce qu'il n'était pas invité au départ. Et la CFDT a commencé à gueuler comme ça en disant ouais, si on avait su que la réunion faisait comme ça, on aurait invité plus de monde, mais c'est pour rien dire, c'est pas bien d'inviter plus de monde. Mais
enfin bref. Ils sont pas dans le mouvement, la CFDT n'est pas dans le mouvement.
Non, pas du tout. Oh, voilà. du tout. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, chacun avait 5 minutes, c'était bien cadré, chacun avait 5 minutes. Et Maël avait super bien préparé son truc, 5 minutes. Et en fin de compte, on s'est rendu compte. En fait, Martinez a envoyé un texto à Maël et il s'est rendu compte qu'en fait, par rapport à ce qu'a dit le mec de la CFDT, c'est clair. Ils ont réduit de 2 heures, c'est passé à 1h50 de réunion, de visio. Donc on a sorti le truc. Donc pas moyen de s'exprimer et tout et tout. Et en fait, le gouvernement après a parlé de ces 50 millions d'euros, ils ont parlé de ça, 50 millions d'euros pour les fonderies, pour une cellule de reclassement. Mais nous, on n'était pas là pour ça. Nous, on veut rester groupe Renault, on sait que la boîte est viable, les volumes existent, donc il n'y a aucune raison en fait de ne pas rester filiale. Et donc la visio, bon, ça nous a dégoûté et le mouvement de grève est parti de là.
Ok. Le lendemain, vous avez commencé à occuper l'usine, quoi.
Dès le lendemain matin. Parce qu'en fait, on a eu une autre visio, nous, à la Cégette, l'après-midi, avec les autres fonderies. Bon, après, ça bouge pas dans tous les sites, mais bon, c'est comme ça, après. Donc nous, on a démarré direct. Bon, en fait, on est allé voir notre directeur, là, avec son bureau, là. Et on a fait à l'ancienne, quoi. Taper à la porte du vieux, comme on dit, quoi, de chez le vieux, quoi.
Le taulier,
quoi. Et en fin de compte, lui, c'est un DG, donc pour moi, c'est un pion.
Oui.
Donc en fait, il n'a pas les réponses. Et ce qui s'est passé dans cette semaine-là, en fait, c'est cette journée-là, on les a empêchés de sortir.
Ce qu'on a vu dans les médias.
On les a empêchés de sortir. C'est-à-dire qu'on s'est mis là, on s'est mis au poste de garde.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais.
On s'est mis au poste de garde, mais moi, je lui ai dit, mais tu t'exprimes devant les salariés, parce que toi, parce que voilà, c'est un DG. Tu t'exprimes devant les salariés, parce qu'il n'y a pas que... Parce que ici, en fait, bon, on est pas mal de syndiqués, on est plus de 200, on est à peu près 220 syndiqués, donc il y a quand même
une grosse masse,
quoi.
Ouais.
Et en fin de compte, bon, après, tout le monde n'écoute pas Éric Blanchy ou Maël Le Goff, on peut dire aussi à des conneries, hein. Ça arrive. La CGT peut dire aussi des conneries. Mais en fait, là, il y a des gens qui nous ont vraiment dit, on démarre maintenant, et... Parce qu'en fait, nous, on pensait démarrer un mouvement à partir du 6
mai. La base a poussé.
Ouais, la base a poussé bien. Et on est parti comme ça. Mmh. Et le DG, là, en fait, on l'a empêché de sortir, oui, une fois. Donc, il est resté avec son comité de direction dans son bureau, appelé son DRH et tout. On est séquestré, il ne va pas nous laisser sortir. C'est même pas ça, en fait. On l'a dit, tu ne sors pas tant que tu ne t'exprimeras pas dans tes salariés. Il n'a pas fait, il n'a pas dit un mot. Et il est resté dans son bureau.
Ouais.
Et ici, c'était libre, hein, c'est libre autant qu'on parle en ce moment-là. Donc, ils pouvaient sortir. Donc, les médias ont fait du buzz.
Oui.
Ils savent faire, Renaud, hein, c'est des spécialistes en com. En fin de compte, il est sorti ce soir à 22h30. Moi, j'étais encore là à 22h30. J'étais avec l'équipe de nuit, à discuter avant de rentrer. Et on lui a redemandé une dernière fois de s'exprimer. Et là, on le laissait sortir parce que ça commence à chauffer un peu quand même. Parce que, à cause des médias. Qui ont mis ce mot séquestration.
Ouais.
Ben, je veux bien, mais bon. Donc il est sorti, on l'a fait une année d'honneur, et on a applaudi en foutant de sa gueule, on l'a laissé sortir. Et les médias étaient là. Et ça l'a fait chier, il y avait 2-3 médias qui étaient là.
Mmh.
Et voilà. Donc ça, c'était le démarrage, donc il n'y a pas eu de. Mais tant mieux, moi, à la guerre, moi, la séquestration, ça m'a arrangé, ça m'a fait rire. Même ma mère m'a appelé, moi. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Maman, est-ce que tu me crois capable de... J'en rêve de séquestrer quelqu'un. J'en rêve de séquestrer quelqu'un. C'est... Oui, j'aurais aimé être derrière la porte, mettre un cadenas et tout. Oui, bah oui. Ah bon, c'est pas vrai là. J'ai dit, mais maman, quand même, je suis père de famille et tout. On n'est pas des tarés, on est tarés, mais... Oui, j'en rêve de séquestrer mon patron. Donc c'est parti comme ça.
Okay.
Et nous voilà dans le mouvement.
Donc depuis mardi, la occupation de l'usine. Mais du coup, la direction, qu'est-ce qu'elle a fait là, la semaine qui a suivi, les jours qu'on suivi, il ne s'est jamais exprimé.
Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Et nous, maintenant, il ne nous reste plus que des dates. Ce fameux 10 mai, en fait, c'est la date butoir.
Alors, rappel, c'est quoi le 10 mai?
Le 10 mai, c'est on est convoqué en CSE extra. Pour Renault, va se positionner vis-à-vis de la Franche-Bretagne. Donc, soit les bruits de couloir, c'est que soi-disant, ils cherchent un repreneur. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut rester Renault. Les bruits de couloir, c'est qu'ils cherchent un repreneur, mais il y a pire. Parce qu'en fait, malheureusement, comme on est à 19 000 tonnes et on est rentable à 30 000, le calcul est simple. En fait, on perd 1 500 000 euros par mois. Depuis des années, en fait. Mais après, c'est un choix de Renault. Hein, si ils ne donnent pas du boulot, après, ils sont sûrement exonérés sur les pertes. Enfin, après, c'est des calculs financiers, sûrement, quoi. Donc, en fait, il y a encore une crainte aussi, quand même, c'est qu'il peut y avoir le redressement, la liquidation. Okay. Il serait assez taré pour. Mais bon, comme il y a une pression politique et syndicale, et ça a pas mal bougé quand même, ils ont dit, nous, on cherche un repreneur. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'il y a une crise aussi au sein de Renault? Je pense que c'est ça aussi qui doit jouer, parce qu'ils ont quand même eu des pertes au niveau des ventes, tout ça. Ils ont un recul au niveau de la vente des véhicules. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui crée aussi peut-être... Il y a une partie aussi de ça. Bon,
Ils se cachent par rapport aux véhicules électriques, voilà. Mais c'est les pertes. Ils veulent se débarrasser de leur fonderie en France, mais c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, pour moi, le véhicule électrique, il n'est pas encore au point.
Non.
Il y a encore besoin de véhicules diesel, hybrides ou essence. Pour moi, c'est une grosse erreur de leur part, une grosse erreur stratégique. Parce qu'en fait, on serait capable. Il faut 12 millions d'euros pour d'investissement pour faire des pièces en aluminium. Ce qui est que dalle, parce que la région Bretagne, elle a donné 8 200 000 euros d'aide en 10 ans. Plus, quand ils ont repris la boîte en 2009, ils ont eu les terrains gratuits. Ils ont exonération, encore, toutes les aides. Donc là encore, je pense qu'en ce moment, à l'instant où on se parle, il y a encore du chantage. Il y a du chantage au million, quoi. Ça, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr.
Et en fait, après, il y a la stratégie gouvernementale à côté. C'est quoi la carotte, c'est le reclassement.
C'est les 50 millions d'euros qui ont été annoncés lundi. Et par contre, il y a une autre visioconférence la semaine prochaine pour valider tout ça. À nous, ce qu'on se dit, mail, en espérant qu'ils ne parlent pas de nous ce coup-là. Quoi. Donc là, ils vont vraiment parler fonderie. Je crois que c'est mardi matin, 8h30 ou mardi. Ils vont vraiment s'occuper des fonderies. Et les 50 millions, valider les 50 millions d'euros pour les reclassements et fermeture de boîte derrière. Okay.
Et quand tu parles de fermeture de boîte, ça ne concerne pas que la fonderie là où
on n'est pas sur la feuille de match. On n'est pas concerné par ça. Ils ont parlé si je me trompe, en France, il y a 4 fonderies qui sont en redressement. J'ai plus les noms, mais je crois qu'il y a dans le Jura, le Poitou, il y a 4 fonderies qui sont déjà en redressement à l'instant où on se parle. Nous, on n'est pas concerné par ça. Mais comme Renault veut faire le ménage dans ses fonderies, eux, c'est radical. Le mec de Méo là-haut. On parlait tout à l'heure que les patrons étaient plus forts que le gouvernement. Oui, dans la visio, c'était clair. Tavares et Demeo, les gros patrons Peugeot Renault, ils ont moufté en 5 minutes, ils ont moufté le gouvernement. Quoi, en disant que qui a décidé les véhicules électriques en 2018, c'était bien la France, l'Europe et tout. Ils les ont mouftés et ils ont le pouvoir, ces mecs-là. Ils les tiennent par les couilles, si je peux me permettre. Les grands constructeurs tiennent le gouvernement par les couilles. Et l'autre, il dit oui, mais bon, alors, il a essayé en disant ouais, mais bon, vous avez vu le CICE, vous avez vu ceci, cela, cela. Mais les autres derrière, ils disent ouais, mais en France, on n'est pas compétitif. Les mecs, ils ont un discours. Et le maire, c'est pas un parti politique que j'apprécie, mais le maire, il était là, il a essayé. Mais il a ramé, le mec,
Puis ils connaissent pas en plus le fond du problème. Non. Ils connaissent, mais ils peuvent pas être en face de gens qui sont
mis d'accord. En fait, ils sont mis d'accord entre eux. Donc Peugeot met 10 millions, Renault met 10 millions, le gouvernement 30 millions. Alors ils se touchent là-dessus, en fait. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder notre emploi. On veut pas être reclassé et de fermeture. On se bat pour l'emploi. On veut pas... Oui, on va aider les gens. Mais c'est pas ça qu'on veut. Même tous les autres fonderies qu'on a eues au téléphone, les mecs sont en redressement. Non, nous, on veut bosser dans le métier, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire en plus, dans la période, trouver du taf. Tu vas faire une formation de crépier pendant un an. Qu'est-ce que tu vas faire?
Du coup, on peut parler maintenant la force de la mobilisation là. Comment tu la ressens? Tu as parlé qu'il y avait un gros soutien quand même de la part des salariés, quoi. Il y a d'autres gens qui viennent vous soutenir. Comment tu ressens là?
Depuis mardi, oui. En fait, on a eu Tous les partis politiques du coin, quoi, le France Insoumise, Parti Communiste, tous les extrêmes gauches, vraiment nous viennent nous voir tous les jours quasi. Là, ils viennent souvent le soir, 18h, discuter. L'union locale aussi, CGT, l'union départementale. Si, il y a pas mal de passages quand même, ouais. Même la population, la manif qu'il y a eu hier. Il y a pas mal de. Il y a pas mal de soutien parce qu'en fait, quand nous on explique les choses, comme je vous ai dit, les choses toutes simples en fait. Tu dis à des gens qui ne connaissent pas la fonderie, ouais, c'est une fonderie qui est. On est à 19 000 tonnes, les volumes existent, et même 40 000 tonnes qui existent en France en fonte. On est capable de faire l'alu, même la région Bretagne, ce qu'on a su, ils étaient prêts à faire la transition aussi et à les aider, je donne pas la somme, à aider Renault, comme quoi ils sont à la pêche au million, pour faire la transition. Les gens ne comprennent pas parce que c'est nos impôts quelque part. C'est les impôts de la populace. Quand nous, syndicalement parlant, on donne le montant de toutes les aides. On parlait d'expertise. Et le CICE, je crois que c'était 600 000 euros par an quand même. Qu'on touchait Renault pour ici. Plus les aides de la région, je disais tout à l'heure, le comité d'agglo, la mairie de Caudan, les terrains. Enfin, Renault, ils sont tranquilles ici, quoi. En fait, les pertes, c'est du vent, en fait, les pertes financières. Et 30 000 tonnes, ils pourraient largement, on est capable de les faire. Il faudrait tourner en 2, en 3, 8. Enfin, ben voilà, mais on a les équipes pour. Enfin, peut-être un peu embaucher à la rigueur pour le tourner la nuit. Mais on est capable de les faire. Si, si.
Et puis une qualité aussi, je pense.
Ah oui,
vous
oui,
avez des compétences, une expérience.
Je parlais de la Turquie et on a encore un. Au niveau de la force qu'on a en ce moment, on a des pièces au magasin là. Renault Le Mans les attend. Donc c'est des pièces qu'ils ont bisourcées, on appelle ça le bisourcing, ça c'est les mots. Donc ces pièces sont faites en Turquie. Mais en Turquie, ils ont 40% de rebut. Donc en fait, ça commence à tousser un peu, ça commence à caler en fait au niveau des chaînes de montage. Et ils ont besoin des pièces, nous on en a au magasin là, ils ont besoin de ces pièces-là. Donc c'est encore une force, quoi.
Alors comment on peut vous soutenir ?
Bah après pour l'aspect, pour moi en fait on rentre vraiment dans le dur, parce que c'est pas sûr encore que le fameux CSE Extra ait lieu le 10. Pour moi les lignes peuvent bouger encore, parce que bon les politiques je pense que la décision va être prise en haut lieu. Je pense que bon, nous on va continuer la lutte, on est prêt à tenir un mois, il n'y a pas de souci. Mmh. Là ça va faire une semaine. Mmh. Et en fait le soutien, après on a mis des dons en ligne, en fait sur internet on peut le soutenir financièrement. Après on peut venir sur le site, là on met une cagnotte sur le site à chaque fois, à chaque fois qu'on fait des merguez ou qu'on. La cagnotte est toujours sur place, mais il faut venir. Le plus important c'est de venir nous voir en fait. De venir sur le parking, en toute sécurité. Comme ça, pour rassurer tout le monde, on est vraiment en toute sécurité. Et il n'y a pas de débordement. L'outil de travail est la preuve, parce qu'on a eu des soucis techniques. Et c'est reparti. On a eu des soucis techniques et y avait des fours. Il y avait un four qui était neuf. Et en fait, le métal était. Il y a 25 tonnes de métal, mais c'est impressionnant. Il y a 25 tonnes de métal. Et en fait, un four neuf, on est obligé de le faire travailler, comme on dit. C'est une sorte de rodage.
D'accord.
Et donc, en fait. Il faut le faire tourner, c'est en nombre d'heures ou en tonnage, en tonnes, c'est en tonnes. Il faut plusieurs milliers de tonnes avant qu'il soit prêt à 100%, quoi. 100% de son rendement. Je n'aime pas ce mot-là, mais 100% de son rendement. Et donc, voilà, efficace. Et en fin de compte, avec les fondeurs, en fait, c'était, je ne sais plus quel jour dans la semaine, ils ont été obligés, il était vraiment trop plein le four, et en fait, ils ne pouvaient plus le faire travailler la puissance. Parce qu'en fait, là, ils sont en position de maintien, donc... Et ce qu'il faut savoir, que si on met en route les 4 fours, 25 tonnes, si on les met en route tous ensemble, ça consomme autant que la ville de Lorient en électricité. Donc c'est énorme. Parce qu'en fait, on fond des paquets de ferraille, des rebuts et tout et tout. Et en fin de compte, il faut 20 minutes de puissance. Donc c'est un système d'induction. C'est des fours à induction électrique. Il faut 20 minutes de puissance pour fondre une tonne. Et c'est énorme, c'est impressionnant. Moi j'ai bossé au four pendant 5 ans, c'est hyper impressionnant et on fond le métal à 1550 degrés. Donc bref, il fallait faire travailler ce four. Donc les fondeurs, en fait, on a fait une réunion d'assemblée générale et on a dit est-ce qu'il y a des fondeurs disponibles pour déstocker, enlever un peu de métal pour qu'on puisse le faire travailler le four. Les mecs ont été tout de suite volontaires, ils ont mis leur bleu de travail et ils sont allés faire travailler ce fameux four. Donc on est responsable, donc il n'y a pas de souci, on peut venir sur le site, il n'y a aucun problème.
Vous faites des visites,
on a fait des visites avec les familles, mais accompagnées avec les salariés du secteur, en toute sécurité. En fait, 20 minutes, Donc on a préféré faire ça samedi après-midi et dimanche. Tranquille, on fait pas visiter on interdit les journalistes. C'est comme ça, on interdit les journalistes. Pourtant, c'est intéressant de montrer le travail, mais au niveau sécurité, on prend soin quand même. Et après, on veut pas avoir un procès au cul non plus. Donc on fait attention à tout ça. Donc les gens sont bienvenus, mais en même temps, c'est impressionnant qu'on voit la fonderie, qu'on arrive sur le parking, c'est impressionnant.
Ouais, c'est un gros site.
Donc c'est hyper important de venir. Après, je sais qu'il y a un Facebook aussi, moi je m'en occupe pas. Il y a un Facebook, faut prévenir avant de passer, il n'y a pas de souci, mais on discute ensemble, que ce soit un quart d'heure ou deux heures.
Et juste pour rappeler, là, les prochaines échéances importantes, le 10 mai, t'as
dit ? Il y en a avant. Hein. Pour moi, il y en aura avant parce qu'en fait... Parce qu'en fait, comme Renault veut vraiment se débarrasser de ses fonderies en France, donc la CGT a créé, il y avait déjà eu avant, mais a créé un collectif des fonderies concernées par l'automobile, donc que ce soit Peugeot ou Renault. Donc il devrait, je sais qu'il y a une journée de grève nationale le 6 mai au Mans. Nous, on ne pourra pas y aller parce qu'on reste là. On aura peut-être une délégation le 6 mai. Et par contre, par rapport aux aides publiques pour le secteur automobile, ça va se décanter là, avant le 10. Nous, le 10, c'est la fonderie. Le 10, c'est la fonderie de Bretagne. C'est vraiment notre calendrier par rapport à expertise et revue stratégique et tout et tout. Le 10 mai, nous, c'est notre date butoir. Après, Renault, ce que j'ai su, moi... Si jamais ils cherchent un repreneur, ils se donnent 3 mois, mais je crois pas. Soit ils ont déjà un repreneur, chose qu'on veut pas nous, mais pour moi, ils ont déjà un. Tu trouves pas... Genre, moi, ma bagnole, j'ai vendu en 6 mois. Si eux, ils arrivent à vendre la fonderie en 3 mois, je serais surpris.
Oui.
Donc, soit c'est déjà fait, je serais pas surpris. Mmh. Ou soit ils sont en pleine négo à la pêche au million, on dit, il y a des négos qui se font. Et moi, je crois plutôt à la pêche au million et à l'intox et au négo, quoi. Après, nous, on veut pas de repreneurs, parce que moi, j'ai connu cette période-là. On a eu... j'ai connu Renault avant 98. C'est une boîte rentable qui tournait bien et tout et tout. Après, ils ont revendu à des Italiens. Les 3 patrons italiens sont dû vider les caisses pendant 10 ans. Après, en 2009, on a fait la lutte en 2009 pour que Renault nous reprenne, parce qu'on devait fermer aussi en 2009. Et Renault nous a repris, comme quoi on n'est pas si nul que ça. Et là, comme ils font le ménage, mais comme je disais tout à l'heure, ils ont tort de faire le ménage dans leur fonderie. Il y aura toujours besoin de fonderies. Donc on a l'échéance du 10. Après, c'est vraiment une date calendrier. Après, ça peut bouger. Après, les politiques, ils peuvent avoir la pression politique qui peut faire la différence. En haut lieu, vraiment. C'est vraiment en haut lieu. Mais tout à l'heure, je disais que Bruno Le Maire, il fermait un peu sa bouche. Fermer un peu sa bouche devant les constructeurs. Bon, après, je sais que Le Drian avait soi-disant nous avait aidé il y a un an, mais bon, là, c'est silence radio. Après, ça sera à ce niveau-là. Hein. Si le gouvernement dit, bah non, ne fermez pas vos fonderies, voilà. Donc, à suivre.
Merci beaucoup.
Merci.
La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse. Thank you.